Le but marqué à 2 minutes 22 par Christina Dimitriou. Avec l'aide de Sébastiano Brunet, Lucie Beaulieu, Tarek Malki, Jenny Agostino, Edith Chen, Emmanuel Jean-Pierre.
Au hockey, comme en immobilier, pour réussir, ça prend toute une équipe. Et avec vos 5000 courtiers Remax, la force du réseau roule pour vous. Remax est heureuse de s'associer à Martin McGoyeux et Danny Dubé pour vous présenter le tout nouveau balado Bon Match.
C'est 23.
Voici la commission Normando-Ferrandaise.
Alors, pour les commissaires, premier sujet ce matin, l'assassinat de Thomas Trudel a soulevé évidemment la colère, l'incompréhension et également des interventions à répétition de la classe politique. Faut quand même rappeler que deux autres adolescents ont été assassinés à Montréal depuis le début de l'année. Et dans les deux autres cas, il y a eu quelques réactions, mais jamais de la même ampleur que celle soulevée par la mort de Thomas Trudel. Donc, est-ce qu'il y a comme deux poids, deux mesures? Nathalie.
Oui, malheureusement oui, Paul, et j'aurais souhaité te répondre non, il n'y a pas deux poids, deux mesures. En fait, l'intensité avec laquelle on s'est exprimé collectivement par rapport à tous ces décès là auxquels tu as référé, là, février, octobre et novembre, c'est effectivement matérialisé de différentes façons. Faut le dire, faut être franc, faut être honnête. Vendredi, la presse publie un article dans lequel témoignent des membres de la famille de Janet Dupuil-Bellé, ce jeune de 16 ans, issu de la communauté noire, assassiné dans le stationnement de son école. Il a été poignardé. Et il dit effectivement, oui, les membres de sa famille ont dénoncé le deux poids et deux mesures, voyant toute l'attention médiatique et tout l'intérêt porté par les autorités suite au décès de Thomas Trudel. Je vous rappelle que la mairesse, le chef de police, puis ils étaient tous une délégation, se sont déplacés sur les lieux où Thomas a été assassiné. Alors, évidemment, lorsqu'on voit ça, on ne peut pas conclure autrement que le deux poids, deux mesures. Et ajouter à ça le message publié le lendemain de la publication de l'article de la presse, donc le samedi, le premier ministre se rend sur les lieux où Thomas est assassiné, va porter des fleurs et là publie un long message sur sa page Facebook et omet de parler de Janet Dupuil-Bellé. Il référait évidemment à Maryam Bendaoui, qui, elle, est morte par balle en février. Et là, il s'est retrouvé sur la défensive. Ça a suscité son message, énormément de réactions sur les réseaux sociaux. Alors oui, Paul, malheureusement, elle doit le dire, il y a encore deux poids, deux mesures au Québec dans la façon dont on traite certaines affaires liées à la couleur de la peau.
Oui, je suis d'accord, mais je porte un bémol. Pas un bémol qui me rend en désaccord, mais un bémol quand même, c'est que la mort du jeune Trudel a été une surprise plus grande encore que les deux autres, parce que dans le cas de Maryam Bendaoui, c'est une balle perdue. Une balle perdue, c'est infiniment triste. D'ailleurs, moi, je vous avoue, j'ai pleuré en lisant la couverture de la presse de ces deux sœurs, les genoux dans la neige, touchant la neige là où le sang de leur sœur avait coulé, puis incapables de prononcer quoi que ce soit, tellement ils étaient tristes. C'est une jeune fille qu'ils avaient amenée à Montréal avec elle parce que les parents... elle habitait en Tunisie, les parents étaient restés en Tunisie, puis ils espéraient une vie meilleure pour elle, et c'est ce qui lui est arrivé. Donc, tu sais, quand tu fais des efforts pour quitter un milieu que tu penses soit violent, soit imparfait, en tout cas, ou toxique, ou je sais pas quoi, puis que tu finis par un décès, ça m'a vraiment, vraiment touché. Mais comme parent, tu dis, c'est une balle perdue, ça arrive pas. Tu sais, c'est une balle perdue, elle n'était pas visée par la balle, tu sais. Dans le cas de Janet Dupuil-Bellé, ben c'est une bataille. Bon, tu dois pas mourir d'une bataille là. Je serais mort assez souvent, on va dire. Mais il faut pas. C'est infiniment triste aussi, jeune garçon prometteur, etc. À coup de poignard en plus. Mais c'est une bataille. Tu dis à ton enfant, ben tu peux éviter des batailles toujours, ben. Mais dans le cas de Jonathan Trudel, tu peux rien éviter.
Thomas Trudel.
Thomas, excuse-moi. Tu peux rien éviter. Il marchait dans la rue, il revient chez lui, son père il avait donné une heure de couvre-feu, il rentre à cette heure-là, puis il se fait assassiner dans la rue. Comme parent, tu dis, là, c'est le truc que je ne peux pas contrôler. Et d'ailleurs, c'est ce que la foule rassemblée en fin de semaine disait aussi. T'sais. on a dorénavant peur. On a dorénavant peur pour nos enfants. On va pas les laisser marcher dans la rue. Mais, la professeure ouais. J.F. Perrault disait aussi, Joseph-François Perrault disait, éviter le parc, marcher plutôt sur cette rue-là. C'est là que là, il y a un message de ghettoisation, il y a un message de peur.
Mais tu vois pas, Paul, Luc, c'est rendu que tu t'appelles Paul maintenant. Tu vois, Luc, le bémol que tu apportes, la façon dont tu le présentes, je le comprends, mais en même temps, on dirait qu'il contribue à banaliser, à catégoriser
le type de violence. C'est le bon mot,
tu comprends?
C'est le bon mot, ouais.
Parce que tu sois morte d'une balle perdue, que tu sois mort poignardé dans la cour de ton école, dans le stationnement de ton école, que tu sois mort effectivement, gratuitement, là, ça semble. Alors, l'enquête n'est pas terminée dans le cas du jeune Thomas Trudel, mais beaucoup de gens affirment qu'effectivement, il est mort parce qu'un jeune des gangs de rue était, on l'invitait à s'initier, hein. Alors, mais peu importe. Comment dire? Peu importe, oui, mais en même temps...
La douleur est immense dans les trois cas.
Oui, dans le fond, dans les trois cas, Luc, là, la violence, elle vient d'une même source. Et c'est la guerre que se font les gangs dans les rues de Montréal. C'est ça qui n'a aucun sens. Moi, l'article publié dans la presse de vendredi, ça m'a énormément fait réfléchir. Ça devrait nous faire réfléchir comme citoyens, comme élu, mais également les médias qui traitent ce genre de nouvelles. Parce qu'objectivement, il n'y a personne qui peut dire aujourd'hui que l'attention médiatique ou l'attention portée par les autorités autour du jeune Jeannet d'Hopewell-Bailey est la même que celle qui était portée à l'endroit de Thomas Trudel et même de Myriam Bondaoui, mm-hmm. qui avait 15 ans, là, qui s'apprêtait à avoir quoi, 16 ans. Alors, il y a vraiment quelque chose qu'on doit faire. La bonne nouvelle dans tout ça, à la fin de la journée, c'est que M. Legault a rectifié le tir hier dans son message parce qu'il s'est fait, il a mangé une volée de bois vert par Marois Risky, là, qui s'est vraiment, qui en revenait pas, qui a omis effectivement le départ du jeune d'Hopewell-Bailey. Mais la bonne nouvelle, c'est que le premier ministre va rencontrer la mairesse Valérie Plante. Et là, il a dit, premier ministre, j'ai demandé à mes ministres de tout mettre en œuvre, tous les moyens inimaginables pour qu'on puisse effectivement lutter contre ce fléau qui est devenu le trafic et la contrebande des armes à feu.
Mais ce que Luc dit est assez vrai aussi, dans la mesure où la réaction des politiciens et des politiciennes est en fonction de la réaction publique. Mmh. C'est pas pour rien qu'ils ont attendu quelques jours avant de se manifester parce que ce décès, puis on peut chercher à l'expliquer, a soulevé beaucoup de réactions. Plus ouais. que les autres, peut-être, parce qu'on s'identifie comme parents en disant « ça peut pas arriver à mon gars qui assassiné froidement comme ça ». Mais c'est comme la guerre des motards. Arrive un moment charnière, c'est la mort d'un enfant qui est mort parce qu'on a fait sauter un véhicule, puis est décédé, le petit Desrochers. À partir de là, c'est carcajou, puis là, il y a plus... Pourtant, il y avait un paquet de meurtres avant, puis des fois des victimes innocentes aussi.
Ouais.
Il
arrive un moment charnière.
T'as un moment qui arrive, tu dis là, tout le monde se réveille.
Oui, bien, on espère que tout le monde va se réveiller. Mais ce que je veux dire là-dessus rapidement, Paul, c'est que on peut essayer de comprendre, mais il n'y a pas d'excuse.
Non, je suis d'accord. Je suis d'accord avec toi.
Puis moi, je trouve qu'il y a quand même une limite au recueillement des élus. Hein. Le recueillement des élus, là, moi, c'est comme les élus qui marchent en tête des manifs sur le changement climatique. Là.
T'as jamais fait ça, toi?
Non, jamais. Moi, quand je marche... moi, je me dis, t'es au pouvoir, c'est toi qui règles les problèmes. T'es pas là pour manifester. Là, puis donc, oui, il faut qu'il y ait recueillement. D'accord, c'est bien. Mais il faut pas mettre trop d'importance là-dessus aussi. Ce qu'on veut, c'est un plan d'action. Là. Alors,
exact.
Et moi, j'aime pas le recueillement sans plan d'action. Là. Les belles paroles, il y a... Pablo Rodriguez a un peu fait reprocher en fin de semaine. Il a fait un beau discours, mais il n'y avait pas d'action proposée. Puis, en marge, ses attachés ont dit le gouvernement, le fédéral ne veut pas légiférer sur les armes de poing, mais on va donner tous les moyens nécessaires au provincial pour le faire.
Ça marche pas.
Ben, c'est ça. T'sais, le recueillement, dans ces conditions-là, pareil pour Valérie Plante. Là, j'ai beaucoup aimé le réalignement du discours entre Valérie Plante du recueillement, puis la mairesse de Saint-Michel-Villeray par extension, Laurence Lavigne-Lalonde, qui a dit le contrôle des armes, et B, donner une solidarité, une vie sociale, un ancrage à ces jeunes-là à part des milliers de moyens. Et c'est ça, d'ailleurs, que tous les manifestants en fin de semaine ont demandé et ont proposé.
Ce que ça nous prend, c'est du leadership.
On s'arrête là-dessus. Au retour, les fameux crédits d'impôt comme ceux donnés à Ubisoft, est-ce que c'est encore nécessaire? Est-ce que c'est encore pertinent?
Curieux ou fan fini de hockey? Rejoignez Martin et Danny dans le balado Bon Match.
Un judicieux mélange d'analyses, commentaires et anecdotes. Disponible dans la section balado de votre station Cogeco Média. Présenté par vos courtiers Remax. Remax, on s'occupe de vous.
La commission Normando-Ferrandaise.
Deuxième sujet ce matin, les fameux crédits d'impôt accordés à des entreprises comme Ubisoft. La question, est-ce que c'est encore pertinent de nos jours? Luc?
Bien, tu as vu dans les dernières semaines, journées, les Chinois vont venir ouvrir un studio de technologie vidéo multimédia à Montréal. Et il y a Ubisoft qui a grandi, qui va ouvrir un premier studio à Sherbrooke puis qui va l'agrandir par la suite. Quand on a des nouvelles comme ça, on se frotte la bedaine. Yes, 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 ça a marché notre affaire, on est bon. D'ailleurs, Montréal, quatrième ville de production de matériel multimédia en Amérique du Nord, après des gros poids lourds, là, San Francisco, Seattle, Los Angeles, et après c'est Montréal devant Toronto quand même, tu sais. C'est de quoi flexer les biceps, tu sais, puis se dire 13 000 emplois à Montréal, des grosses jobs en plus, des jobs 87 000 $ de salaire moyen avec 6 semaines de congé. Fait que ça tire pas les mouches avec du vinaigre. Fait que voilà. Donc on se dit et que ça marche donc. Puis c'est vrai qu'historiquement, c'est l'industrie qui a permis à Montréal de sortir de la léthargie qui était installée suite au départ de tous les emplois industriels. Dans les années 90, Montréal avait mauvaise mine. Et ça a été le redémarrage de Montréal, le multimédia. Bon, ceci étant dit, maintenant, on est en pénurie d'emplois. Hein? Chaque emploi que tu crées, tu l'enlèves à quelqu'un d'autre. C'est pas comme si tu créais un emploi. Ou alors, tu es obligé d'attirer un immigrant, travailleur temporaire, qui va échapper aux règles sur l'immigration, donc en particulier sur les règles sur la langue. Alors, est-ce qu'on en a encore besoin? C'est la question que se posait Gérard Filion avec notamment mon ami Jean-Martin Hossan, où il se posait la question, rendu là, t'as-tu encore vraiment besoin? Puis c'est 37% du salaire qu'on finance. Plus tous les prêts en garantie lors des investissements, plus les aides particulières, les prêts sans intérêt, à hauteur de 50 millions pour Ubisoft. Tu dis, il me semble que quand t'es rendu en plein emploi, là, tu pourrais peut-être un peu slacker la poulie, tu sais. Mais tu sais, dans le livre d'économie de la CAQ, là, il y a juste une page. Hein? C'est le chapitre « Dans le fond, mon Léon ». Dans le fond, mon Léon, ça, c'est la tête de chapitre. Puis le titre, c'est « Dans le fond, mon Léon ». Puis après, c'est la fin du livre. Fait que là, eux autres, là, regarde, les alumineries, dans le fond, mon Léon. L'industrie forestière, dans le fond, mon Léon. Il y a quelque chose que vous comprenez pas, là, sur le...
Il faut bien créer des emplois, Luc. Arrête-moi ça. Ouais, mais attends, mais là,
est-ce qu'on a besoin de ces emplois-là, là, regarde. Moi, j'ai été maire de l'endroit où ces emplois-là sont créés, OK? Il y en a 12 000 dans le Mile-End. Puis, je peux-tu te dire que la place est en train d'exploser? Je veux dire, c'est-tu vraiment ces emplois-là qu'on a de besoin? C'est ça la question que je pose.
Bien, tout d'abord, moi, je fais une distinction entre les crédits d'impôt pour les individus et les entreprises. Si vous faites une recherche sur Internet, là, il y a des dizaines et des dizaines de crédits d'impôt qui existent. Dans le cas d'Ubisoft, c'est vrai que il y a des questions à se poser. En fait, pour l'entreprise, Ubisoft, en faut-il le rappeler qu'à son siège social à l'étranger, pour eux, c'est Noël à l'année. Là. Ça, depuis 2005, je pense que c'est le Journal de Montréal qui a fait une analyse. Pierre Couture, l'entreprise a reçu, tenez-vous bien, donc depuis 2005, 1,1 milliard de dollars en aide gouvernementale, soit c'est sous forme de crédit d'impôt ou de subvention. Et de ce montant, 90% provient du gouvernement du Québec. Et il semblerait que Ubisoft continuera d'être abonné au crédit d'impôt québécois jusqu'en 2027. Fait que Luc, malheureusement pour toi, pour nous, Ubisoft va bénéficier encore longtemps de l'aide gouvernementale.
Sauf erreur, si tu enlèves la contribution des gouvernements Québec principalement, ils font pas de profit.
Voilà, c'est ça qui fonctionne pas.
C'est comme ça dans beaucoup d'industries, CAE,
t'as
comme ça.
Oui, c'est ça, c'est le modèle d'affaires qui ne fonctionne pas. Et là, tu te dis, attends une minute, là, ça veut donc dire que pour conserver leur compétitivité, ils disent, on vous garantit ad vitam aeternam des crédits d'impôt. Moi, je regrette, mais il y a quelque chose qui fonctionne pas. Et c'est pas vrai qu'un crédit d'impôt, là, ça signifie avoir un abonnement à l'année. Et parce que généralement, on met sur place des crédits d'impôt. Pourquoi? Pour les entreprises, pour favoriser l'émergence d'un nouveau secteur d'activité. C'était le cas avec la cité du multimédia. Ubisoft, c'est l'espèce de vaisseau amiral de cette cité qui a été créée sous le gouvernement de Bernard Landry en 1998. C'est bien, tout le monde a salué ça. Puis le plan de Ubisoft pour décentraliser ses opérations en région, Québec, Sherbrooke, Saguenay, effectivement, il faut saluer ça. Mais là, je pense que le gouvernement doit réfléchir à la façon de maximiser les deniers des contribuables et voir comment, effectivement, on peut avoir un plan, d'une espèce de plan de sortie. Parce que sinon, on parle de Ubisoft, là, excusez-moi, il y a d'autres bénéficiaires des crédits d'impôt là, qui ramassent des millions
par année.
CGI, Ericsson, Morgan Stanley, ça, c'est des grosses boîtes là, qui sont pas dans la dèche entre vous et moi. Là.
Mais tu sais, tu dis que ça va se terminer en 2027. Je peux-tu te dire, moi, qu'en 2026, la salle est déjà réservée pour faire la conférence de presse sur le prolongement des crédits d'impôt après 2027?
Mais là, Québec va te répondre. Qu'est-ce que tu veux que je fasse? Je suis dans un marché là où tout le monde, si c'est pas moi, il y a quelqu'un d'autre qui passe en arrière. Des villes, des États américains, puis qui se battent.
Sauf que, regarde, des emplois à 87 000 $, là, c'est le salaire moyen. Là. Ça inclut l'adjoint administrative, ça inclut ou l'adjoint administrateur, je ne sais pas comment on appelle ça au masculin, un adjoint ou une adjointe. Ça inclut tout le monde. Ça veut dire que le salaire du technicien ou du professionnel est pas mal en haut de 100 000 $. Et il y a 6 semaines de congé. Fait que toi, tu dis, moi, je travaille, là, je paye des impôts pour faire... donner ces genres de choses. Si le salaire moyen au Québec, c'est en bas de 50 000 $, là. Donc, je paye mes impôts à chaque année pour financer ce genre d'emploi-là. Et, t'sais, avant, tu disais, on veut des emplois parce que ça ramène de l'argent à l'État, puis cet argent-là nous permet de donner des services à la population. Mais pas dans ce cas-là. Dans ce cas-là, l'argent qui serait rapporté à l'État sous forme d'imposition des employés est versé à l'entreprise. Alors, il y a une forme d'injustice, première chose. La deuxième chose, c'est quand est-ce que ça arrête? Moi, je travaillais chez Hydro-Québec quand il y a eu les fameux contrats secrets pour attirer les alumineries. Puis là, on a dit, ben oui, c'est pendant 20 ans, puis c'est parce qu'au début, vous ne ferez pas de profit. Fait que là, c'est correct, il n'y aura pas de profit, puis au bout de 20 ans, on arrête ça. Au bout de 20 ans, ils ont prolongé. Quand les profits ont explosé, ils ont gardé. Puis en ce moment, les profits des alumineries sont énormes parce que le prix de l'aluminium est très élevé. Bien, Hydro-Québec donne tout le temps des tarifs d'hydroélectricité qui sont bien en deçà du tarif L, donc indécent. Et c'est nous, comme consommateurs, qui payons ça. Est-ce qu'on n'est pas à un moment charnière où on pourrait dire, regarde, des nouveaux emplois à 100 000 $, du monde qui vont habiter, qui habiteront sur le plateau, dans le Mile-End, dans le Mile-Ex, mais qui mettront jamais le pied de l'autre bord de la métropolitaine, parce qu'ils pensent qu'il y a des grandes chutes là-bas après la métropolitaine, puis c'est la fin du monde. Alors qu'on est en pénurie de logements totale, est-ce que c'est vraiment ça? On pourrait-tu tester des affaires? On pourrait-tu commencer à dire, oh, OK, au moins, ils seront pas remboursables? C'est-à-dire que si tu payes pas d'impôts, ben, t'auras pas de crédit d'impôt. Au moins ça. Ou alors, on va commencer à les réduire. On pourrait-tu faire une couple de tests?
Ben, il y a un mini-budget qui s'en vient, là. Il y a des idées pour le ministre des Finances.
Pardon. Le ministre des Finances a le dossier des Nordiques. C'est déjà presque une job temps plein.
Non, je peux-tu faire un commentaire là-dessus? Je t'entendais tantôt ce matin avec Bernard. Non, mais c'est vrai. Écoute, François Legault nous dit, ben, il tente de s'ériger en lobbyiste pour convaincre Gary Bettman d'envoyer une équipe à Québec. Mais en même temps, je me dis, si je suis ministre des Finances puis je me retrouve dans le même bureau que Gary Bettman, je vais pas aller là pour ses beaux yeux uniquement, là. C'est sûr que le ministre des Finances va mettre quelque chose sur la table. Il ne faut pas être dupe. Là. Il ne va pas aller rencontrer Gary Bettman en disant je me fais le porte-parole du premier ministre, on aimerait bien ça avoir les Nordiques à Québec. Là. Ça va aller plus loin que ça. Là. Il va certainement mettre quelque chose sur la table. Mais oui, c'est sûr. Voyons donc.
Bon point parce que regarde ce qu'il a dit pour les expos là, récemment.
Les crédits d'impôt.
Il va donner les crédits d'impôt.
Merci à tous les deux.
C'est 23.
Curieux ou fan fini de hockey? Rejoignez Martin et Danny dans le balado Bon Match. Un judicieux mélange d'analyses, commentaires et anecdotes disponible dans la section balado de votre station Cogeco Média. Présenté par vos courtiers Remax. Remax, on s'occupe de vous.